Méridienne.
Il nous a rejoint en studio, c'est le prof Patrick, et il m'a dit qu'il risquait d'être bavard aujourd'hui. Alors on fait pas de pause musicale et on le retrouve tout de suite.
Pas de pause, tout le monde au boulot.
Une nouvelle rubrique, Nuances du Monde, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans cette rubrique?
Aujourd'hui je vais imiter et rendre hommage en même temps à ma collègue Emma, qui est plutôt dans l'équipe Nuances du Monde, celle qui s'occupe des chroniques littéraires. Et je vais vous lire des extraits d'une nouvelle d'un auteur de science-fiction américain qui s'appelle Ursula Le Guin, une dame décédée en 2018, très respectée aux États-Unis pour la qualité littéraire de son œuvre. Et la nouvelle dont je vais vous lire des extraits, c'est un morceau culte de son œuvre, une sorte de légende qui évoque ses lecteurs assidus, parce qu'elle a une dimension philosophique très forte. Alors pour que vous entriez bien dans cette nouvelle, je vais vous proposer, chers auditeurs, de vous imaginer, puisque je vais décrire une cité imaginaire, une cité merveilleuse, de vous imaginer que vous faites partie de cette cité, que vous en êtes un des habitants. On y va ?
Allez, exercice d'imagination.
Cette nouvelle s'appelle « Ceux qui partent de Melas ». Dans une clameur de cloches qui faisait l'essor des hirondelles, la fête de l'été entra dans la cité de Melas, éclatante de tours sur la mer. Le gréement des navires au port étincelait de drapeaux. À travers les rues, entre les maisons aux toits rouges et aux murs peints, entre les vieux jardins envahis de mousse, et sous les avenues d'arbres, au-delà des grands parcs et des bâtiments publics, les processions avançaient. Certaines étaient solennelles, des vieillards en raides et longues robes de mauve et de gris, d'austères maîtres ouvriers silencieux, des femmes enjouées qui portaient leurs enfants et bavardaient tout en marchant. Dans d'autres rues, la musique battait plus vite, un sentiment de gong et de tambourin, et les gens se mirent à danser. La procession était une danse. Les enfants s'y jetaient et ressortaient, leurs cris aigus s'élevant comme les volées d'hirondelles qui se croisaient au-dessus de la musique et des chants. Toutes les processions s'enroulaient vers le nord de la cité, ou sur la grande plaine irriguée appelée les prés verts. Garçons et filles, nus dans l'air éclatant, aux pieds, aux chevilles, aux bras longs et souples, exerçaient leurs chevaux nerveux avant la course. On ressentait une douceur gaie, diffuse dans l'air, qui de moment en moment tremblait de se rassembler avant d'éclater dans le puissant et joyeux tintement des cloches. Comment devrait-on parler de la joie ? Comment décrire les citoyens de Melas ? Ce n'étaient pas des gens simples, voyez-vous bien qu'ils étaient heureux. Une telle description pousse à faire certaines suppositions. Imaginez, une telle description pousse à guetter l'entrée du roi, chevauchant son superbe étalon et entouré de ses nobles chevaliers. Ou peut-être dans une litière dorée portée par des esclaves musculeux. Mais il n'y avait pas de roi, il n'usait pas d'épée ni ne gardait d'esclaves, ce n'étaient pas des barbares. J'ignore les codes et les lois de leur société, mais je présume qu'il y en avait singulièrement peu. Tout comme ils étaient sans monarchie et sans esclavage, aussi faisaient-ils sans la bourse, sans la publicité, sans la police secrète, sans la bombe. Et pourtant, je répète, ce n'étaient pas des gens simples, pas de doux bergers, de nobles sauvages, d'insipides utopistes. Comment pourrais-je vous parler des gens de Melas ? Ce n'étaient pas des enfants naïfs et heureux, bien que leurs enfants étaient en effet heureux. C'étaient des adultes mûrs, intelligents, passionnés, dont les vies n'étaient pas misérables. Oh, miracle ! Mais j'aimerais pouvoir le décrire mieux que cela. J'aimerais pouvoir vous convaincre. Melas sonne dans mes mots comme une cité dans un conte de fées, un temps jadis, un pays lointain, il était une fois. Peut-être serait-il préférable de vous laisser l'imaginer au gré de votre fantaisie. À supposer qu'elle se montre à la hauteur, car je ne pourrais certainement pas vous convenir à tous. Il pourrait certainement avoir le chauffage central, les lignes de métro, les machines à laver et toutes sortes d'appareils merveilleux qui n'ont pas été encore inventés ici. Des lumières flottantes, de l'énergie sans combustible, un remède contre le rhume. Ou bien il pourrait n'avoir rien de tout ça, c'est sans importance. Une chose que je sais ne pas être en Melas est la culpabilité. Mais que devrait-il y avoir d'autre ? J'ai pensé d'abord qu'il n'y avait pas de drogue, mais c'est du puritanisme. Pour ceux qui aiment ça, la douceur du druze, diffuse et insistante, peut parfumer les manières de la cité. Le druze, qui apporte d'abord grande légèreté et brillance à l'esprit et aux membres, et puis après quelques heures, une langueur onirique, et enfin de prodigieuses visions des arcanes elles-mêmes et des secrets les plus enfouis de l'univers, tout en excitant les plaisirs du sexe au-delà du croyable. Et ça ne crée aucune accoutumance. Bon, pour les goûts plus modestes, je pense qu'il devrait y avoir de la bière. Quoi d'autre ? Quoi d'autre au sein de la cité joyeuse ? Le sens de la victoire, certainement ? La célébration du courage. Mais comme nous avons fait sans clergé, faisons sans soldats. Revenons à la fête. Les chevaux se cabrent sur leurs jambes élancées et quelques-uns hennissent en réponse. Impassibles, les jeunes cavaliers caressent l'encolure de leurs chevaux et les apaisent en murmurant « tout doux ma beauté, mon espoir ». Ils commencent à former un rang le long de la ligne de départ. La foule autour du champ de course est comme un pré d'herbes et de fleurs sous le vent. La fête de l'été a commencé. Y croyez-vous ? Acceptez-vous la fête, la cité, la joie ? Alors, laissez-moi vous décrire une chose encore. Dans un sous-sol, au-dessous d'un des plus beaux bâtiments publics de Melas, ou peut-être dans la cave d'une des spacieuses maisons privées, il y a une pièce. Elle n'a qu'une porte verrouillée et pas de fenêtre. Un peu de lumière s'infiltre. Dans un coin de la petite pièce, deux balais serpillères aux franges raides, caillées, nauséabondes, sont posés près d'un seau rouillé. Le sol est sale, un peu humide, comme sont sales la plupart des caves. La pièce fait environ 3 pas de long et 2 pas de large, juste un placard à balais ou un débarras. Dans la pièce, un enfant est assis. Ça pourrait être un garçon ou une fille. On lui donnerait à peu près 6 ans, mais en fait, il en a presque 10. C'est un faible d'esprit. Peut-être est-il né déficient ou peut-être est-il devenu imbécile à force de peur, de malnutrition, de manque de soins. Il se cure le nez de temps à autre, triture vaguement ses orteils ou ses parties génitales, tout en restant assis recroquevillé dans le coin le plus éloigné du seau et des 2 serpillières. Car les serpillères lui font peur, il les trouve horribles. Il ferme les yeux, mais il sait que les serpillères sont toujours là et que la porte est verrouillée. Et que personne ne viendra. La porte est toujours verrouillée et personne ne vient jamais. Sauf quelquefois. L'enfant n'a aucune compréhension du temps. Quelquefois, la porte grince terriblement et s'ouvre et quelqu'un ou quelques personnes sont là. L'une d'elles peut entrer et frapper l'enfant pour le forcer à se tenir debout. Les autres n'approchent jamais et le scrutent avec des yeux emplis de frayeur et de dégoût. L'écuelle et la cruche sont remplies à la hâte, la porte est verrouillée, les yeux disparaissent. Ceux qui restent à la porte ne disent jamais rien. Mais l'enfant, qui n'a pas toujours vécu dans ce débarras et qui peut se souvenir de la lumière du jour et de la voix de sa mère, parle quelquefois. « Je serai sage, dit-il. S'il vous plaît, laissez-moi sortir, je serai sage. » Ils ne répondent jamais. Au début, l'enfant criait à l'aide la nuit et il pleurait beaucoup. Mais maintenant, il n'émet plus qu'une sorte de gémissement. Tous savent qu'il est là, tous les gens de Melas. Certains sont venus le voir. D'autres se satisfont seulement de savoir qu'il est là. Tous savent qu'il faut qu'il soit là. Certains comprennent pourquoi, d'autres non. Mais tous comprennent que leur bonheur, la beauté de leur cité, la tendresse de leurs amitiés, la santé de leurs enfants, la sagesse de leurs érudits, l'habileté de leurs artisans et même l'abondance de leurs récoltes et la clémence de leur climat dépendent entièrement de l'abominable misère de cet enfant. C'est expliqué le plus souvent aux enfants entre l'âge de 8 et 12 ans, dès qu'ils semblent en mesure de comprendre. Et la plupart de ceux qui viennent voir l'enfant sont jeunes, quoique assez souvent un adulte vienne ou revienne voir l'enfant. Peu importe le soin avec lequel la chose leur est expliquée, ces jeunes spectateurs sont toujours choqués et révulsés par cette vision. Ils ressentent du dégoût, ce qu'ils avaient cru pouvoir surmonter. Ils ressentent de la colère, de l'indignation, de l'impuissance, malgré toutes les explications. Ils aimeraient faire quelque chose pour l'enfant, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire. Si l'enfant avait été ramené à la lumière, hors de ce lieu ignoble, s'il était lavé, nourri, réconforté, ce serait une bonne chose, certes. Mais si ça a été fait en ce jour et en cette heure, toute la prospérité et la beauté et les délices de Melas se flétriraient et seraient détruits. Telles sont les conditions. Échanger toute la vertu et la grâce de chacune des vies de Melas pour cet unique et minime progrès. Jeter le bonheur de plusieurs milliers pour la possibilité du bonheur d'un seul. Les conditions sont strictes et absolues. On ne peut même pas dire un mot de gentillesse à l'enfant. Souvent, les jeunes gens rentrent chez eux en larmes ou dans une rage sèche quand ils ont vu l'enfant et regardé en face ce terrible paradoxe. Ils peuvent le ruminer pendant des semaines ou des années. Mais à force de temps, ils finissent par reconnaître que même si l'enfant pouvait être relâché, il ne tirerait pas un grand bien de sa liberté. Un maigre et vague plaisir de chaleur et de nourriture sans doute, mais à peine plus. Il est trop dégradé et imbécile pour connaître une joie réelle. Il a été trop terrifié, trop longtemps, pour être à jamais libéré de la peur. Ses habitudes sont trop bestiales pour répondre à un traitement humain. Après si longtemps, il serait probablement misérable, sans mur autour de lui pour le protéger, sans obscurité pour ses yeux et sans ses propres excréments pour s'y asseoir. Leurs larmes devant la terrible injustice se sèchent quand ils commencent à percevoir la terrible justice de la réalité et à l'accepter. Pourtant, ce sont leurs larmes et leur colère, l'effort de leur générosité et l'acceptation de leur impuissance qui sont peut-être la véritable source de la splendeur de leur vie. Mais il reste encore une chose à raconter, et elle est assez invraisemblable. Il arrive parfois qu'un de ces adolescents, filles ou garçons, qui vont voir l'enfant ne rentre pas chez lui en pleurs ou en colère, ne rentre en fait pas du tout chez lui. Quelquefois aussi un homme ou une femme bien plus âgé garde le silence pendant un jour ou deux, puis quitte son foyer. Ces gens-là sortent dans la rue et marchent le long des rues, seuls. Ils continuent de marcher et marchent droit hors de la cité de Melas, passant les superbes portes. Ils continuent de marcher à travers les terres cultivées de Melas. Chacun s'en va, seul. Fille ou garçon, homme ou femme. La nuit tombe, le voyageur doit descendre les rues des villages, entre les maisons aux fenêtres éclairées, et plus loin, dans l'obscurité des champs, chacun, seul. Ils vont à l'ouest ou au nord, vers les montagnes. Ils continuent, ils quittent Melas. Ils marchent devant eux, dans l'obscurité, et ils ne reviennent pas. Le lieu vers où ils marchent est un lieu encore moins imaginable pour la plupart d'entre nous que la Cité du Bonheur. Je ne peux pas du tout le décrire. Il est possible qu'il n'existe pas. Mais ils semblent savoir où ils vont, ceux qui partent de Melas. J'ai terminé la lecture de la nouvelle Mathieu. Quelques petits commentaires ?
Étrange.
Alors, tu es sans voix, c'est normal.
Je suis sans voix.
Deux choses. Un, cette nouvelle, elle l'a écrite sous l'inspiration d'un philosophe américain qui s'appelle William James. Cette nouvelle met à l'épreuve une philosophie de la justice qui s'appelle l'utilitarisme. Mais moi, je vais simplement, à vous, chers auditeurs, et à toi Mathieu, vous poser une question. Donc, vous êtes depuis le début, que selon mes instructions, habitant de Melas, et vous, auriez-vous quitté Melas ?
Eh ouais.
J'en ai terminé, Mathieu.
Merci beaucoup pour cette rubrique, Prof Patek. Pas merci pour cette question qui va m'angoisser toute la journée. À tout bientôt.
À plus. Galade. La Méridienne.